faut que je te raconte. Voici Michel Barrette.
So much that we need to share. Alors, give a little bit. Salut Michel.
Supertramp.
Supertramp. On va parler du don aujourd'hui avec toi, Michel. La plus belle histoire de don gratuit que vous avez vécu ou dont vous avez eu connaissance, parce qu'il y a cette très belle histoire d'Alexandre Pratt dans la presse d'aujourd'hui. Un client dans une espèce de café. Un dénommé Patrick Michel, qui devient l'ami du propriétaire et qui apprend que le frère du propriétaire est atteint d'un cancer très grave et très avancé. Et ce client dit, ça n'a pas de bon sens, les traitements te coûtent tellement cher parce que le frère, le propriétaire du café, a donné au-dessus de 100 000 à son frère pour payer ses traitements, mais là, il est à côté, ça botte, comme on dit, il n'est plus capable de continuer à payer. Et ce client, Patrick Michel, donc, décide de courir l'équivalent de 2 marathons par jour pour ramasser des sous pour le frère, donc, du patron du café, qu'il ne connaît même pas. C'est le don gratuit total, oui. Michel.
2 marathons par jour, et si je ne me trompe pas, c'est jusqu'à la fin juillet.
Ah, c'est fou, là. C'est
complètement fou. Complètement fou d'une personne qu'il ne connaît pas.
Non. Il a juste voulu aider. Il dit, ça n'a pas de bon sens que ton frère soit obligé de payer ces traitements-là. Ça coûte un prix de fou. Je comprends que tu n'es plus capable de l'aider. Ben moi, je vais t'aider. Et donc, depuis ce temps-là, à tous les jours, écoute, il court l'équivalent, chaque jour, l'équivalent de deux... Il court 8 heures par jour, l'équivalent de 2 marathons.
C'est incroyable. Incroyable, d'abord, le geste est incroyable. L'effort, l'exercice, ça ne peut pas, là, 2 marathons par jour.
Et pour quelqu'un que tu ne connais pas. Alors là, on s'est dit, quel beau prétexte pour vous demander aux auditeurs, là, vous demander de nous raconter une histoire de don gratuit. Puis je ne parle pas juste de don financier.
En argent, non.
Ça peut être n'importe quoi. Quelqu'un, puis je vous dirais, dans certains cas, certains des plus beaux dons, ce sont des dons anonymes, Michel. T'entends jamais parler du fait que ça s'est fait, mais ça s'est fait.
Des dons anonymes, et parfois, bon, c'est extrême dans le cas du monsieur, c'est extrême parce que les montants sont extrêmes, mais parfois, c'est, tu sais, des gens qui ne connaissent pas les pensionnaires d'une maison de personnes âgées ou de personnes en fin de vie, et qui vont accompagner ces gens-là, aider ces gens-là, laver ces gens-là. Mais qu'ils font, d'abord, gratuitement, et qu'ils font parce qu'ils veulent aider, simplement, et qu'ils ne demandent pas de reconnaissance. Ils disent, moi, je me lève, je m'en vais au centre, j'aide ces gens-là, je vais aller nourrir, aller nettoyer, puis ils ne demandent rien. Ils le font dans l'anonymat, puis personne ne va jamais le savoir.
Puis il y en
parfois
a,
même leurs proches.
Puis il y en a beaucoup plus qu'on le pense, Michel. Moi, je vais te dire, là, quand j'étais député, là, j'ai entendu des histoires, puis j'ai vu des histoires, là, des gens qui avaient des sous, puis qui décidaient à un moment donné de faire un don anonyme, ou qui décidaient à un moment donné d'acheter, tu sais, pour un organisme, mettons, qui venait en aide à des femmes violentées ou à des enfants qui avaient des problèmes de santé mentale, peu importe, des maisons qui traitaient des toxicomanes. Puis là, à un moment donné, tu avais quelqu'un qui décidait de, OK, garde, je sais que vous êtes dans la misère, je sais que vous n'avez pas d'argent pour changer votre toit, dites-moi combien ça va coûter. Faites-vous faire une soumission, je vais payer pour refaire votre toit. Ou encore, vous avez besoin d'une nouvelle fournaise, vous n'avez pas d'argent pour vous acheter une nouvelle garde. Écoute, il y a du monde, de la bonté pure, Michel, là, il y en a tellement plus qu'on le pense. Là. Il y en a tellement plus qu'on le pense. Là.
Des médecins de certaines époques qui ont soigné des gens et sans jamais, parce que tu sais, à l'époque, avant que ce soit les soins soient gratuits, qui ont soigné des gens, des familles, des accouchements, des maladies, sans jamais avancer de facture. Et qui parfois se sont mis eux-mêmes dans des positions financières précaires parce qu'ils avaient compris, eux, qu'ils étaient là aussi pour servir.
Le cœur sur la main, comme on dit des fois. Hein, le cœur sur la main.
J'ai déjà d'une connaissance à moi qui est bien nantie et qui avait, en accord avec des policiers, remettait des montants d'argent pour que les policiers remettent cet argent-là à des gens dans le besoin. Lorsqu'ils devinaient que ces gens-là, ou ils les connaissaient dans le quartier, mais ils disaient, vous remettez l'argent, mais vous ne dites pas de qui ça vient. C'est vraiment, il n'a jamais voulu, moi je le sais parce que je le connais bien, il n'a jamais voulu qu'on le publicise, il n'a jamais voulu que personne n'en parle. C'était vraiment pour remettre un peu, parce qu'il disait, moi je suis un bien nanti, je suis chanceux dans la vie, puis il y a des gens qui souffrent, alors si je peux aider, voici ma manière.
Redonner ou donner au suivant, comme on dit des fois. Oui. On commence à avoir quelques appels, Michel. Sylvie, d'abord, bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Moi, je veux vous raconter l'histoire d'un gars qui n'a pas beaucoup, beaucoup de temps dans la vie, qui est vraiment là, toujours super débordé. Puis un soir, il avait la chance d'aller passer la soirée chez son meilleur ami. Puis c'était un soir d'hiver, il faisait très, très froid. Et puis quand il est arrivé chez son meilleur ami, devant la porte, il y avait quelqu'un qui s'était enlisé dans la neige. Alors du coup, il est rentré dans la maison, il a demandé au fils de son ami de l'aider. Puis là, ils sont sortis, puis ils ont passé une bonne partie de la soirée à essayer de sortir la personne de la neige, puis de l'aider, vu qu'il faisait très, très froid. Puis, ben ce gars-là, c'est mon chum. Puis aujourd'hui, c'est sa fête. Fait que...
Oh, Martine!
Et comment il s'appelle, votre chum?
Il s'appelle Bernard Drainville.
Martine, pourquoi
quoi?
C'est toi que ça me gêne. Écoute, je l'ai... OK, bonne les filles, ça, c'est... Ouais, merci, t'es bien... Là, c'est... tout le monde est crampé dans la régie, là. J'étais pas au courant de ça. Martine, t'as pas... ça me met mal à l'aise, ces affaires-là. Là.
Merci,
ça me met tellement mal à l'aise.
C'est pas grave que ça mal à l'aise. Bonne fête,
okay, Michel parle, là, OK, parce que je... Écoute, j'écoutais cette voix-là, je me disais, voyons, je connais cette voix-là. C'est qui, ce voix-là? Je connais cette voix-là, c'est la voix de ma blonde, Christy.
Il est temps que tu rentres, tu ne reconnais plus ma voix. Alors,
OK,
c'est chérie. Ta fête, je vais aller te chercher au travail tantôt.
OK.
Je vais être devant la porte. Oui, je suis à Montréal.
OK, merci, chérie. T'es
OK,
bien
bye.
OK, bye.
Ah, j'aime ça.
OK, on peut-tu revenir sur le sujet maintenant? OK,
oui,
une belle histoire.
Même,
là, ils sont tellement fiers de leur coup, les autres en régie. Oui. Là, ils sont crampés bien raides, Michel.
Et en notre nom et au nom des auditeurs, bonne fête.
Bon, merci, vous êtes vraiment gentils. Alors, revenons au sujet, parce que c'est ça qui est important. Des histoires de dons, là, n'importe laquelle histoire, là, un don, là, don de soi, don d'argent, don de temps, don, peu importe. Pascal, bonjour.
Oui, bonjour, ça va bien?
Très bien, on vous écoute.
Oui, ben moi, j'ai une troupe de théâtre amateur, et le but de la troupe, c'est de jouer pour des causes, des fondations, des organismes, non lucratifs, pour leur levée de fonds.
Ah oui, hein?
Oui, donc c'est tant qu'à faire des soupers spaghettis ou des trucs comme ça qui demandent beaucoup de bénévoles et de trucs. Ben, ils ont juste à nous appeler. Et donc, en une soirée, ils remplissent leur salle et tous les sous leur appartiennent.
Comment vous faites pour choisir la cause? Parce qu'il y a tellement de causes que vous pouvez aider.
Ben, écoutez, il y en a qui nous approchent. Il y en a d'autres qu'on approche. On a joué pour les petits déjeuners. On a joué pour Enfants Soleil. On a joué pour... Donc, il y a beaucoup de sous qui se sont partagés là, depuis les 10 ans d'existence de la troupe.
Merci, Pascal. Bravo. Continuez. C'est tout ce qu'on peut dire. Maintenant, c'est une vraie Sylvie qui nous appelle. Bonjour, Sylvie.
Oui, c'est la vraie Sylvie. Bonjour, monsieur. Monsieur Barrette, je sais qui fait de la moto. Moi, je fais partie d'un club de moto ici à Montréal. Ça s'appelle le RCRC, Southern Cruiser Riding Club. Puis l'année passée, on a ramassé au-dessus de 250 quelques mille dollars pour une jeune dame qui demeure dans le bout de Rouen. Elle a eu 2 enfants et le dernier, son petit, s'est fait brasser par le papa et il s'est ramassé, tu sais, avec le syndrome du bébé brassé, en fauteuil roulant, et la dame avait beaucoup de difficultés. Alors, on a on a fait des soupers, on a vendu plein de choses. On a avec quelqu'un du coin qui lui a donné un morceau de terrain, contracteur qui a bâti la maison. On lui a ramassé de 250 quelques mille dollars.
Ah, oh, bravo.
Bravo!
Bravo, Sylvie! Excellent! Excellent. Oui. Merci pour l'appel. J'ai quelqu'un qui m'écrit, qui me dit, écoute bien ça, je trouve ça très intéressant. C'est juste que là, il y a tellement d'histoires qui rentrent. C'est quelqu'un qui donne du sang.
Oui,
Michel, qui donne du sang. Il est rendu genre à 170 dons. Je pense que c'est des plaquettes, notamment. Là, j'ai vu ça passer. Mm-hmm. Tu vois, ça aussi, c'est un don extraordinaire. Ah, voilà, je suis un donneur de plaquettes et de plasma régulier aux 2 semaines. Je suis rendu à 170 dons. C'est pour ceux qui souffrent du cancer. Bravo. On a maintenant Judith. Bonjour, Judith.
Bonjour.
On vous écoute.
Ben moi, je téléphone en fait pour vous féliciter pour votre émission. Puis le sujet du jour aujourd'hui me touche beaucoup, puisque moi, j'ai moi-même aidé des migrants d'origine haïtienne qui ont immigré ici et ils n'avaient rien. Ils ont loué sous mon toit, dans le sous-sol, et puis je leur ai fourni un lit, des matelas, des vêtements. J'ai fait des annonces sur Kijiji pour des recherches de vêtements d'enfants, d'une bazinette parce qu'elle était enceinte. Et je les ai aidés.
Les gens répondaient bien aujourd'hui.
Pardon?
Est-ce que les gens répondaient bien à vos demandes?
Oui. J'ai eu énormément de demandes que j'ai dû en refuser. Une quantité de vêtements, une quantité de meubles. J'ai tout trouvé pour ces gens-là. Ma mère m'a aidée aussi. Alors, j'ai toujours aidé les gens autour de moi, les plus démunis, du mieux que je pouvais, là.
Est-ce que vous les avez hébergés longtemps, Judith?
Non, ils ont loué en dessous de moi. Moi, je reste dans un duplex et ils ont loué l'appartement en dessous de moi puis ils sont toujours là. Alors, souvent, je les aide comme ça quand ils ont besoin. Dans les débuts, je leur ai donné de la sauce à spaghetti, je leur donnais de la nourriture pour les
Est-ce
aider le temps qu'ils règlent les choses.
Et Est-ce qu'ils ont réussi à se trouver un emploi? Oui. Est-ce qu'ils ont réussi à se trouver un emploi?
Oui, les deux travaillent. Maintenant, les deux travaillent au salaire minimum et j'ai aidé un à se trouver un emploi dans un garage comme mécanicien. Il a obtenu ses cartes. Et puis, tout va bien, là.
Merci, bien, bravo Judith, c'est très bien.
Parce que parfois, juste le premier coup de pouce, Bernard, fait parfois la différence.
Ah, tout à fait. Un bel exemple. C'est la partance. Tu vois, Kathleen qui nous écrit, elle dit, j'étais à la caisse d'un supermarché. Il y avait une femme qui peinait à trouver dans le fond de son sac les sous pour payer sa petite épicerie. Il fallait qu'elle fasse un choix. Le monsieur, alors il fallait qu'elle fasse un choix dans le genre, je vais vider une partie de la petite épicerie parce que sinon j'ai pas assez d'argent pour tout payer. Elle dit, le monsieur en avant de moi a offert de l'aider et a payé toute la facture, c'était une 60aine de dollars. J'ai vu qu'il y avait encore des personnes très généreuses, c'est un très beau geste et ça m'a beaucoup ému, nous dit Kathleen, merci. Quelqu'un d'autre nous écrit, bonjour, près de mon chalet, je me suis retrouvé, ah tiens, dans une épicerie. J'ai vu une dame qui n'avait pas les moyens de payer son panier. L'épicier acceptait de marquer. Ça m'a brisé le cœur. J'ai voulu payer, même si je ne suis pas riche, mais en même temps, je ne voulais pas embarquer la personne. Je ne sais pas ce que ça veut dire par ça. Mais
embarrasser.
Oui, c'est voilà. Exactement. La prochaine fois, nous avons passé et avons donné des sous pour aider cette personne à rembourser sa dette. Ah, OK, parce que l'épicier avait marqué la commande. Et puis, depuis, nous donnons régulièrement de façon complètement anonyme pour baisser la dette de la dame auprès de l'épicier. C'est pas pire, ça, là.
Oui, c'est bien, c'est bon. C'est bon parce qu'en même temps, la personne n'est pas gênée du geste.
Et voilà, elle n'est pas humiliée. Voilà, exactement. Oui, exactement. Suzy, bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Moi, c'est dans le cadre d'une collègue de travail de ma fille, monoparentale, qui a été atteinte d'un cancer du sein, qui n'avait pas beaucoup de revenus. Donc, on était dans la période des fêtes. On a décidé qu'un couple d'amis de faire un panier de Noël. Fait qu'on a fait du bouche à oreille, on a parlé à quelques amis, des gens totalement volontaires qui la connaissaient pas, et on a réussi à y refaire un panier de Noël de 1100 $ à cette personne-là.
Bravo!
Oui, c'est ça. Puis ça nous a donné le goût de continuer. Donc, depuis ce temps-là, ça fait 4 années, à chaque année, en lien avec la maison de la famille, notre petit groupe, avec le bouche à oreille, qu'on réussit à donner des paniers de Noël à des familles dans le besoin.
Bravo, Suzy. Continuez, lâchez pas. Oui. C'est un petit peu de bonté, un petit peu d'amour pour nos pareils, Michel.
Oui. Et ce que je trouve intéressant de ce que notre dernier intervenant vient de dire, c'est que parfois, on y prend goût. Les gens commencent comme ça, un petit geste, un panier de Noël, puis finalement, ils aiment tellement, ils se sentent tellement bien qu'ils veulent poursuivre. Trouver une manière encore de donner, puis de se réunir, puis de donner. Alors, bravo, oui. Bravo.
Ah, tu vois, il y a quelqu'un qui nous écrit, il dit, j'ai travaillé 10 ans en épicerie, puis on voit souvent la générosité des gens de différentes façons. Il y a plus de bon ou de bonté qu'on le pense chez l'humain, nous dit cet auditeur. OK, on s'arrête, Michel, parce que après la pause, tu voulais vraiment nous parler. Tu voulais faire, en fait, à part pour le jour du débarquement, pour le 75e. Tu as été militaire, puis dans le fond, on va vous poser la question. Est-ce que vous pensez qu'on salue suffisamment et qu'on reconnaît suffisamment la valeur de ce que les soldats ont fait pour nous et font pour nous? C'est ça, Michel, en résumé?
Absolument. Absolument, parce que souvent, l'image qu'on a des vétérans, c'est de vieux monsieur, de vieilles dames. Puis on a de la difficulté à imaginer que ces gens-là avaient, si on parle juste du débarquement, avaient 17, 18, 16 ans. Alors, est-ce qu'on est capable de se faire l'image? Est-ce qu'on est capable vraiment de reconnaître leurs gestes?
À leur juste valeur. À leur juste valeur. Après la pause.
Trainville PM. Faut que je te raconte. Voici Michel Barrette.
De jeunes gens, qui pour beaucoup n'avaient jamais foulé le sol français, ont pris tous les risques. Débarquer au petit matin, sous le feu allemand, progresser sur une plage jonchée d'obstacles et de mines.
C'était Emmanuel Macron, le président français, donc ce matin, lors des cérémonies pour rendre hommage donc à ces militaires qui ont fait beaucoup, dans certains cas, qui ont fait le sacrifice ultime pour notre liberté puis notre démocratie. Michel, ça te touche en particulier, toi?
Ben, ça me touche parce que, d'abord, je trouve triste qu'on n'enseigne pas aux jeunes d'aujourd'hui ces sacrifices-là, l'histoire de la guerre, du pourquoi. Contre quoi on a dû se défendre, contre quoi des milliers des milliers et des millions de personnes sont décédées. Et lorsque je vois les militaires aujourd'hui, parfois le militaire, parce qu'il représente l'armée, les jeunes, parfois même les moins jeunes, voient les militaires comme d'un drôle d'œil. C'est comme c'était l'image de la guerre. Mais on oublie que nos militaires, encore aujourd'hui, servent partout sur la planète, perdent leur vie, encore aujourd'hui. Bien sûr, quand on parle du 6 juin 44, c'est énorme, mais ce don-là, ce sacrifice ultime-là, est-ce qu'on le réalise? Est-ce qu'on apprécie nos militaires à
leur juste valeur? À leur juste valeur. Voilà.
Alors, militaires d'avant, militaires d'aujourd'hui.
Oui, c'est ça. C'est important. C'est pas seulement les militaires qui ont participé au débarquement qui méritent tout le crédit et toute l'admiration que nous pouvons leur montrer, mais je dirais les militaires d'aujourd'hui aussi. Tu vois, j'ai un militaire qui m'écrit, Michel, il dit « Je suis militaire depuis 18 ans. J'ai fait l'Afghanistan en 2007, en 2009. Et souvent, au Québec, nous sommes jugés comme des violents ou des personnes aimant la guerre. Mais dernièrement, une dame au dépanneur a vu mon chandail de l'Afghanistan et elle m'a remercié pour mon service et ça m'a vraiment touché. Merci.
Bravo.
Oui, voilà, c'est ça. Tu vois, on a eu, tu sais, dans notre histoire, Michel, alors 790-9850, si vous voulez nous parler de comment ça vous touche, la reconnaissance ou la gratitude que vous pouvez avoir pour les militaires, pour le travail qu'ils font, gênez-vous pas, là, 790-9850. Tu sais qu'on on a toujours eu un rapport un peu difficile avec l'armée, nous autres, là, au Québec, là, parce que les deux premières guerres mondiales, enfin, les deux guerres mondiales qu'on a combattues, il y avait toujours une espèce de résistance chez nous, parce que, et dans le cas de la première et dans le cas de la deuxième, il y avait une partie de l'opinion publique qui disait on va se battre pour la couronne britannique, on va se battre pour les Anglais, c'est pas notre guerre, on n'a pas d'affaires là. Et on a vu, moi j'ai vu un gros changement dans l'opinion publique, je te dirais, ces 15-20 dernières années. On salue de plus en plus le sacrifice et la contribution de ces militaires qui ont fait les premières et deuxièmes guerres mondiales. On voit de plus en plus que c'est un combat universel contre le nazisme ou contre la barbarie. Et ça, je m'en réjouis.
Merci, et j'espère, parce que on ne sait jamais quand on ne le souhaite pas, quand on sera à nouveau demandé pour aller combattre notre liberté. Mm-hmm. Les militaires d'aujourd'hui qu'on voit, là, qui ont l'air bien, tu sais, qui aident, on parle de vers de l'autre. Il ne faut pas oublier que ces gens-là qui nous aident aujourd'hui seront peut-être appelés sur le front demain. Parce que c'est ça aussi.
As-tu absolument raison. Puis avec l'instabilité internationale qu'on vit présentement, on n'est jamais à l'abri d'un conflit qui se déclare très rapidement sans prévenir. Mario qui nous appelle, donc au 790-9850. Bonjour Mario.
Bonjour. Je voulais partager avec vous le fait que mon père faisait partie des forces canadiennes du débarquement de Normandie, la deuxième vague, en fin d'après-midi. Quatre de ses amis ont été assassinés le matin même au débarquement. Mm. Il l'a su que deux jours plus tard. Puis mon père, quand il est revenu, moi je suis né en 1956, alors quand il est revenu de la Deuxième Guerre mondiale, il était très solitaire, calme, renfermé. Puis en grandissant, je comprenais pas. Et ma mère, plus tard, vous expliquait pourquoi. Et moi-même, je suis allé dans les forces canadiennes en 1973. Et à ce moment-là, mon père, durant une rencontre des anciens vétérans du 11 novembre dans la Légion canadienne, après, pour une raison quelconque, c'était la première fois qu'il s'est ouvert à moi, puis c'est la seule fois qu'il m'en a parlé, puis il m'avait dit, écoute, Mario, je peux pas t'expliquer c'est quoi le sentiment d'une balle qui siffle auprès de tes oreilles. Comment veux-tu que je t'explique ça? Comment je peux t'expliquer ce que j'ai vu? Là, je parle d'une époque qui était pré-média, pré-iPad, pré-cellulaire, pas de vidéo, rien. Alors, puis un jour, il dit, peut-être qu'un jour, tu pourras comprendre, puis m'excuse, j'ai compris le jour que je suis allé voir le film « Il faut sauver le soldat Ryan ».
Oui.
Oui.
J'étais au cinéma, j'ai entendu les balles siffler chaque côté de ma tête. J'étais entré dans le film, j'étais avec eux sur la plage. Je n'arrivais pas à y croire le réalisme de ce film-là dans un cinéma. Et là, j'ai compris ce que mon père avait vécu.
Bravo, mais Mario.
Soyez fiers de votre père.
Ah, bien, visiblement, vous l'êtes. Vous l'êtes, Mario. Vous l'êtes. Merci pour l'appel. Tout à l'heure, le témoignage que j'ai lu là, de l'homme là, qui a été félicité par la dame au dépanneur, j'ai oublié de dire que c'était un gars du 22. Je pense que c'est important de le préciser. J'en ai un autre qui vient de m'écrire. Là, dit, mon frère a 58 ans. Il a été 34 ans dans l'armée. Il a été en Afghanistan. Et Dieu merci, il est revenu vivant. Mais on peut voir que mentalement, il a beaucoup souffert de ce qu'il a vu. Ils ne veulent pas parler de ce qu'ils ont vu. Mon frère est un héros. Mon grand-père aussi a fait la guerre en Belgique, me dit cet auditeur. Il y en a un autre qui dit, mais trois de mes chums ont fait la Bosnie, 92-95, c'était l'horreur, me dit Steve par texto. Bonjour, Benoît.
Oui, bonjour. Moi, c'est pour vous dire que j'attends pas au 6 juin pour les féliciter. À toutes les fois dans ma vie que je rencontre un militaire ou une militaire, je lui donne la main puis j'y dis merci.
Bingo. Continuez. Non, je sais pas. Dernier texto peut-être, Michel. Mon grand-père y a été dans le temps. Le camion arrivait chez toi. Il embarquait les 18 ans et plus. Mais mon grand-père s'était fait faire des fausses cartes pour entrer dans une taverne. Et quand ils sont arrivés, ils ont dit, t'as 18 ans, t'embarques. J'ose pas imaginer ma grand-mère comment elle devait capoter de voir son garçon de 16 ans partir pour la guerre. T'imagines-tu, toi?
16 ans.
T'imagines-tu? Ouais. Moi, je
vais
dire.
Combien de familles ont vu arriver soit un télégramme, une lettre ou carrément la visite d'un aumônier qui venait annoncer à une famille, vous savez, votre fils est mort héroïquement en Normandie ou en.
Aux Pays-Bas, oui, peu importe. Oui, en Italie, on en a perdu beaucoup, effectivement.
Ouais.
En tout cas, c'est un bon moment pour leur rendre hommage et leur dire merci, Michel. Je suis content de l'avoir fait avec toi. On se reparle demain?
Absolument, mon ami.
Lâche pas. On se reparle.
Merci, Hey, bonne fête.
Ah oui, ben, t'es bien fin. Merci. On va donc... Ah, on a un appel de Marie. T'es-tu toujours là, Michel?
Oui, absolument.
Bouge pas, Marie nous appelle. Bonjour, Marie.
Bonjour, M. Réville.
On vous écoute.
Alors, moi, c'était juste pour... premièrement, je vous félicite de votre émission. Je vous écoute souvent.
Merci.
Moi, mon fils est militaire depuis 12 ans. Il a fait l'Afghanistan. Et là, son copain, Alexandre Péloquin, il était dans l'armée ici. Ça va faire 10 ans qu'il est décédé ce dimanche. Alors, il avait 20 ans. Ça faisait à peine un an qu'il était rentré dans l'armée. Et alors, il a donné sa vie pour nous.
Il est décédé en Afghanistan, Marie, Alexandre Péloquin, c'est ça?
Il y avait d'autres personnes devant lui, mais il a tourné le coin. Il a tourné le coin gauche d'un épicisse et il a pilé sur une mine.
Voilà.
Alors... c'est ça. Alors, ses funérailles ont été à Blanchefort, Chatham, et puis mon fils a porté son béret dans le cortège des funérailles.
Et cinq.
Alors, ça va faire 10 ans. Alors, il y a une messe pour lui demain.
Merci de nous appeler. Merci de nous appeler pour nous le dire. Merci. On vous a attrapé juste avant d'aller à la pause. Alors, bravo, Marie. Saluez votre fils. Pensez pour Alexandre Péloquin. Michel, à demain.
Merci, Bernard.